VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. République démocratique du Congo, ouverture ce mercredi du dépôt des candidatures à la présidentielle du 23 décembre 2018. Les candidats ont jusqu'au 8 août pour remettre aux autorités leur dossier en ce sens. Parmi les opposants sur les rangs dans la course à la présidence, le président du MLC, Jean-Pierre Bemba, actuellement à Bruxelles, qui a déjà confirmé son prochain retour en RDC pour militer pour une candidature unique de l'opposition dans le scrutin. Et l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, lui aussi à l'étranger. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
J'ai de l'expérience dans la gestion de l'État, j'ai un programme à présenter, soutient Jean-Pierre Bemba pour justifier sa candidature à la présidentielle de décembre prochain. Le président du mouvement de libération du Congo évoque également son retour au pays le mercredi 1er août 2018. Un retour selon lui sans idée de rancune ni de vengeance. Je suis tourné vers l'avenir, je ne regarde plus vers le passé, précise-t-il, avant de rappeler son souhait de voir l'opposition se désigner un candidat unique à la présidentielle. Jean-Pierre Bemba regrette par ailleurs le non-respect par le pouvoir de l'accord du 31 décembre 2016 et rappelle que le président Kabila n'a pas droit à un troisième mandat consécutif. La constitution est claire à ce sujet. S'il se représente, ça sera un désastre pour le pays, souligne-t-il. Comme le leader du MLC, l'avocat et le directeur de cabinet de Moïse Katumbi étaient également face à la presse à Paris. Ils ont notamment annoncé le retour en RDC de Moïse Katumbi avant le 8 août prochain pour déposer sa candidature à la présidentielle. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
RDC toujours, augmentation des cas de violation des droits de l'homme dans le pays à l'approche de la présidentielle et des législatives du 23 décembre. Un récent rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dans le pays, le BCNUDH, couvrant la période entre janvier et juin 2018, a documenté plus de 3310 cas de violation ou atteinte des droits de l'homme. Le point avec notre correspondant à Bukavu, Ernest Mouero, qui a rencontré des défenseurs des droits humains du Sud Kivu dans l'est du pays.
Ces rapports révèlent des violations généralisées des droits civils et politiques, une augmentation de près de 500 cas des incidents des violations des droits de l'homme par rapport aux cas documentés de janvier à juin 2017, remarqué Maître Justin Bailly-Roué, coordonnateur des SOS IJM et observateur permanent au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, déplore cette augmentation.
Tout ce qui est contenu dans ces rapports relève ou fait la photographie de la situation des droits humains dans notre pays. Nous décrions cet état de choses et on demande à notre gouvernement de faire en sorte qu'il puisse relever ces défis. Comme pays siégeant au Conseil des droits de l'homme, il est censé refléter les bons élèves.
Pour Maître Arnold Denyalouma, avocat à la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple et doyen de la faculté des droits à l'Université catholique de Bukavu, il est inacceptable que dans un état des droits, en 6 mois, 222 cas de menaces et violations des droits de l'homme soient documentés à l'encontre des 141 défenseurs des droits de l'homme et 39 journalistes selon ses rapports.
Cette période où nous allons vers la période électorale, si on muselle la presse, il n'y a pas de démocratie. Si des journalistes vont avoir peur d'aborder des questions de société, puisqu'ils peuvent être menacés, ça signifie que nous sommes en train de tuer l'état de droit sur lequel nous sommes assis.
Le rapport révèle également 499 cas documentés des violations liées à la restriction de l'espace démocratique, alors qu'en 2015, il n'y en avait que 290. 120 cas de décès des personnes en détention, 779 violations dont les exécutions extrajudiciaires commises par les agents de la police et 245 victimes des violences sexuelles. Solange Loachiga du mouvement Rien sans les femmes réagit.
C'est un indice inquiétant et nous sommes en train de voir qu'il y a des signaux qui ne trompent pas. Nous voulons ainsi lancer un appel à la communauté internationale afin que la situation des violations des droits humains ne puisse pas se dégrader davantage au courant de cette période électorale qui s'annonce.
Alors que parmi les provinces affectées par des conflits figurent le Nord Kivu, l'Ituri, les Kasaï et le Sud Kivu, Maître Justin Bailly-Roué s'étonne que depuis juillet, le défenseur des droits de l'homme du Sud Kivu n'ait plus d'interlocuteur.
Nous avons tous été surpris de constater que le gouverneur de province a supprimé de manière expresse le ministère de la Justice et des droits humains. Ça s'appelle une régression en matière de mise en œuvre des droits humains. Nous sommes maintenant l'unique province qui n'a pas d'interlocuteur. C'est pas normal.
Selon ces rapports d'IBCNUDH, dans les provinces affectées par les conflits, 45% des violations sont commises par les groupes armés et 55% attribuables aux agents de l'État. Ernest Mouero Bukavu pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Politique au Zimbabwe, les scrutins présidentiels et législatifs du 30 juillet, les premiers dans le pays depuis la chute de l'ex-président Robert Mugabe en novembre dernier, sont sur le point d'être des élections frauduleuses. C'est ce qu'a affirmé à Harare ce mercredi le candidat de l'opposition Nelson Chamisa, en critiquant ce qu'il a appelé l'arrogance de la commission électorale qui a choisi de ne pas jouer le jeu de la transparence, dit-il. Pour sa part, l'ONU dénonce des intimidations, des menaces de violence et le harcèlement d'électeurs avant les scrutins. L'organisation internationale déplore également l'usage inquiétant de propos désobligeants à l'égard des femmes candidates. Les détails avec Irénée Hermanoumbo.
Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'inquiète du nombre croissant d'informations reçues, en particulier dans les zones rurales, concernant les intimidations d'électeurs, des menaces de violence, de harcèlement et de coercition, notamment de la part de personnes contraintes d'assister à des meetings politiques. L'organisation demande aux autorités, aux responsables de partis politiques et à leurs partisans de faire en sorte que les élections se déroulent dans de bonnes conditions. Le président Emmerson Mnangagwa, membre de la JANU-PF au pouvoir depuis 1980, a promis des élections libres et justes. Il a également accepté la présence d'observateurs de l'Union européenne, du Commonwealth et d'organisations américaines, une première en 16 ans.
Afrique de l'Ouest maintenant, le ton monte en Guinée entre le gouvernement et les syndicats. Excédé par les nombreuses manifestations contre notamment la hausse de 25% du prix du carburant, le Premier ministre guinéen menace de sévir contre ceux qui prennent, selon lui, le pays en otage. Les détails avec Nicolas Pinault.
Ibrahima Kassori Fofana s'exprimait à l'issue d'une rencontre hier entre le président Alpha Condé et des militants du parti présidentiel, le RPG. Au nom de quoi des partis politiques, des sociétés civiles, des syndicats peuvent-ils prendre en otage tout un pays? Lundi grève, mardi ville morte, mercredi marche. Montrez-moi un pays au monde où ça fonctionne comme ça. Ça n'existe pas, a tranché le Premier ministre guinéen sur la télévision publique. Je vais manier le bâton et la carotte, l'ordre public est l'une des priorités de mon gouvernement, a insisté Ibrahima Kassori Fofana. Le Premier ministre a accusé les opposants, les syndicats et la société civile de vouloir, je cite, empêcher le président de la République de gouverner et de travailler pour le bien du pays, alors qu'une grève générale illimitée contre la hausse du carburant a débuté hier. À Conakry, l'administration a tourné au ralenti, les transports urbains étaient rares et un service minimum était assuré dans les hôpitaux. Le mouvement était bien suivi dans la plupart des grandes villes du pays comme Labé, Pita, Kindia, Boké, Fria ou encore Nzérékoré. Cette grève avait été annoncée lundi après la dispersion par la police de deux marches organisées le même jour par la société civile et les syndicats pour réclamer l'annulation de la hausse de 25% du prix du carburant en vigueur depuis le 1er juillet.
Au Niger, condamnation à 3 mois de prison avec sursis des acteurs de la société civile arrêtés dans le cadre des manifestations de protestation contre la loi des finances 2018. Ali Idrissa, Moussa Tchangari et Nouar Zika, ayant déjà passé 4 mois en détention, seront donc relâchés. Le point avec notre correspondant Niamey Abdulrazak Idrissa.
Sur les 3 chefs d'accusation pour lesquels ils étaient poursuivis, le juge a retenu un seul, provocation d'attroupement non armé. Et c'est pour cela qu'il les a condamnés à une peine d'emprisonnement de 3 mois assortie de sursis, ce qui signifie qu'ils vont sortir de prison ayant déjà passé 4 mois de détention. D'où la joie et la satisfaction de leurs camarades et parents. Barira Chebou, une des épouses de Ali Idrissa.
On remercie le bon Dieu, on remercie le juge, les avocats et tout le monde. Et la lutte continue.
La décision de condamnation de 3 mois d'emprisonnement avec sursis concerne donc les principaux leaders de la société civile. 2 de leurs co-détenus, eux, ont été relaxés faute de preuves. 10 d'autres condamnés à 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis. Ce pourquoi le conseil d'avocats compte interjeter appel. Abdulrazak Idrissa, Niamey, VOA, Afrique.
Et vous terminez en Afrique du Sud, le sommet de trois jours des BRIC, les pays émergents, est maintenant en cours à Johannesburg. Dans leurs propos d'ouverture de la réunion, la Chine et l'Afrique du Sud ont exhorté les participants à combattre le protectionnisme et à promouvoir le commerce dans le monde. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.